Bonjour, M. Rousseau.
Bonjour, M. Roy.
Deux sondages fort intéressants en vue des prochaines élections fédérales qui sont parus au cours des derniers jours. Un qui concernait le déclenchement possible d'élections et l'autre sur la popularité des chefs et le potentiel de croissance des partis.
Oui, effectivement. Donc, les rumeurs persistent pour des élections à l'automne, donc possiblement en septembre. Alors, les maisons de sondage se font aller. Premier sondage, justement, porte sur cette possibilité-là d'élection en septembre. Et il y a une forte majorité d'électeurs, quand même là, 55 % qui ne souhaitent pas d'élection en septembre, contre seulement 27 % qui en souhaitent. Alors ça, c'est pas un très bon signe pour les libéraux là, qui, selon la rumeur, voudraient profiter de la faiblesse des conservateurs là, pour déclencher des élections, là, justement, là, possiblement pour avoir une élection en septembre. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être un moins bon signe pour les libéraux.
En même temps, ça dépend si les électeurs tiennent le gouvernement ou les oppositions responsables, parce que les électeurs ne veulent jamais vraiment d'élection, là.
Non, c'est ça, c'est un classique. Hein, on compare ça à une visite chez le dentiste. Ouais. Là, on n'en veut pas, mais on a quand même besoin une fois de temps en temps. Et là, effectivement, donc ça dépend qui sera tenu responsable de ce déclenchement-là, dont les électeurs ne veulent pas. Et il y a une question dans le sondage là-dessus aussi, puis c'est 58 % des électeurs qui disent s'il y a des élections en septembre, ce sera la responsabilité des libéraux, contre seulement 23 % qui disent que ce sera la responsabilité des oppositions. Mm-hmm. Puis effectivement, là, moi j'ai tendance à penser que le 58 % a raison, parce que même minoritaire, c'est quand même le gouvernement qui, à la fin de la journée, contrôle pas mal l'agenda. Le gouvernement minoritaire, il peut toujours faire un compromis avec l'un ou l'autre des partis, puis survivre. Donc, je pense que ces électeurs-là ont raison là-dessus. Surtout que depuis 2019, donc depuis l'élection de ce gouvernement Trudeau minoritaire, ben, les oppositions ont été plutôt collaboratives. Là. Ça n'a pas été un psychodrame à chaque vote avec des menaces de faire tomber le gouvernement. T'sais, je me souviens, moi, du gouvernement minoritaire de Paul Martin là, vers 2004, là. Il y avait toujours des menaces, puis on était toujours à la veille d'une élection parce que les partis d'opposition faisaient toujours des menaces de faire tomber le gouvernement.
Ouais, ouais, ouais.
Cette fois-là, on n'en est pas là. Fait que je pense que les électeurs ont compris là, que les oppositions, c'est pas eux autres qui cherchent une élection.
Ben, y a pas d'appétit d'élection chez le NPD, chez les conservateurs, les bloquistes non plus en soi. Là. Donc, on pourrait se dire, ben écoute, ça va être un détail. On va en parler pendant les deux premières journées de la campagne, puis après ça, on va changer de sujet. Mais on sait pas, là.
Ben, c'est ça. Ça peut arriver. Ça arrive des fois si vous avez un gros enjeu électoral qui s'impose, effectivement, qui a déclenché l'élection, là, fou, c'est mis de côté puis on oublie ça. Mais il y a d'autres fois où il n'y a pas tout de suite un enjeu qui s'impose. Les deux, trois, quatre premiers jours de la campagne, on parle encore de ça, là, de celui qui a déclenché l'élection sans trop de raison, puis ça fatigue le monde. Donc, perdre deux, trois jours de campagne, c'est jamais bon. Puis ensuite, il y a le risque que celui qui déclenche l'élection, ben, il n'arrive pas vraiment à bien l'expliquer. Puis là, ça lui fait un mauvais début de campagne là, d'avoir à justifier puis de plus ou moins y arriver. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a eu un gouvernement minoritaire qui lui-même a déclenché l'élection, c'était...
Pauline?
Oui, 2014, le gouvernement Marois. On comprend qu'elle a déclenché parce qu'elle voulait un gouvernement majoritaire, mais pourquoi qu'elle avait besoin d'un gouvernement majoritaire tant que ça? Qu'est-ce qu'elle n'arrivait pas à faire dans le cadre d'un gouvernement minoritaire qui était si important? Elle l'a pas vraiment bien expliqué en début de campagne.
Non, non.
Ça l'a suivi. Son mauvais début de campagne l'a suivi tout le long de la campagne avec les résultats qu'on connaît à la fin. Donc, il faut quand même faire attention à ça, là.
Mais tu as la situation inverse aussi. Si on regarde, on recule encore un petit peu plus loin en 2011. Le gouvernement Harper était minoritaire, puis c'est l'opposition qui l'avait fait tomber.
Ben c'est ça. L'inverse est vrai aussi. Cette fois-là aussi, on reprochait aux partis d'opposition. Les partis d'opposition allaient en élection, puis là, ils disaient il faut absolument que Harper reste minoritaire. C'était leur gros objectif de campagne. Puis là, le monde disait ouais, mais il était déjà minoritaire, puis vous avez déclenché une élection.
Ouais.
Donc, c'est ça. C'est encore là, les partis avaient de la misère à expliquer pourquoi il était allé en élection. Donc, celui qui déclenche l'élection, là, souvent, ça peut jouer contre lui.
Harper était devenu majoritaire, d'ailleurs, à la suite de cette élection-là. Là.
Exact. Donc, ça avait joué contre les partis d'opposition d'avoir déclenché l'élection. Mais il existe un autre exemple, on remonte encore un peu, 2008, quand le gouvernement Charest minoritaire a déclenché une élection, sans trop de raisons, parce que encore là, les partis d'opposition étaient plutôt collaboratifs. Il a quand même réussi à aller chercher une majorité, même si c'est lui-même là, qui s'est fait tomber comme gouvernement. Encore là, parce que les oppositions étaient faibles. Donc, autant la DQ que le PQ étaient faibles. Donc, Charest a pu passer de minoritaire à majoritaire, même si c'est lui-même fait tomber son gouvernement.
Mais dans l'équilibre de tout ça, il y a cet aspect-là aussi. Les oppositions, présentement, sont un peu faibles. On pourrait être tenté de donner une majorité à Trudeau.
Oui, effectivement. D'autant plus que l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a une majorité de sondés, 43 % qui souhaitent un gouvernement majoritaire, alors qu'à peine 37 % souhaitent un gouvernement minoritaire. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle de M. Trudeau de ce sondage-là. L'autre bonne nouvelle étant que 83 % des gens sont prêts à aller voter, sont pas inquiets, sont prêts à aller voter, même en pandémie. Alors, ça semble assez solide. Évidemment, une quatrième vague va faire évoluer ça, là, mais à 83 %, ça semble solide.
Le classique aussi, c'est toujours de demander qui ferait le meilleur premier ministre, qui a le plus la tête, là, t'sais, l'étoffe d'un premier ministre pour le pays. Puis là encore, pas trop de mauvaises nouvelles pour M. Trudeau.
Non, puis c'est un classique que le premier ministre en place va souvent profiter un peu de cette question-là. Bah, c'est plus
ben
facile
oui.
de l'imaginer, premier ministre, parce qu'il l'est déjà.
Ouais.
Alors, 37 % pour M. Trudeau, 14 % à peine pour Erin O'Toole, alors que Jack Meeting, lui, est à 18 %.
C'est ça la nouvelle. Tant qu'à moi, c'est ça la nouvelle. Écoute, que le chef conservateur soit moins populaire, qu'on le voit moins comme premier ministre que le chef du NPD, là...
Effectivement, donc il y a des médias qui ont repris juste ça de ce sondage-là, alors méchante mauvaise nouvelle pour les conservateurs. Mais bon, en même temps, Erin O'Toole est tout nouveau, Jack Meeting est là depuis un bout, l'espoir des conservateurs, là, ça peut être de dire, ben nous, notre chef, il est peu connu, puis il gagne à être connu, donc c'est un petit peu ça leur espoir. Mais même ça, ça regarde pas si bien que ça, parce que l'autre chiffre de ce sondage-là, c'est ce qu'on appelle le potentiel de croissance. C'est-à-dire, on demande aux gens pour quel parti vous pourriez considérer voter. Pas que vous avez l'intention de voter pour eux, mais vous êtes ouvert peut-être à y penser. Les conservateurs sont à peine 41%. Ça veut dire que 59% du monde, ils se poseront même pas la question à savoir si peut-être qu'ils voteraient conservateurs. Alors, ça leur fait pas un gros potentiel de croissance,
non.
41%.
Non.
Contrairement aux libéraux à 56%, NPD à 48%. Fait que c'est ça. Le seul espoir, c'est peut-être d'avoir un nouveau chef qui pourrait être connu en cours de campagne, là, mais à 41% de taux de potentiel de croissance possible, là, c'est quand même limité.
Mais t'as vu l'effet de Jack Layton dans une élection précédente, mais Layton avait déjà un capital de sympathie qui était pas pire. T'sais, oui, il avait connu, écoute, une croissance hallucinante en campagne électorale, mais le capital de sympathie était déjà là, puis il était déjà connu quand même un peu, Jack Layton. Et Erin O'Toole, là, de voir cette espèce de miracle-là se produire, j'ai des doutes, là.
Ouais, puis Jack Layton, de mémoire, la fois il y a eu une bonne élection, c'était pas sa première. C'était sa deuxième troisième comme chef, là.
Oh, oui, tout à fait.
Il avait eu le temps de se faire connaître, exact, là. Fait que non, c'est ça, Erin O'Toole, ça sera pas facile. Fait que, puis surtout que lui, avec les sondages, avec les conservateurs un peu derrière les libéraux, puis en plus... Le mode de scrutin qui fait qu'ils ont besoin d'avoir de l'avance s'ils veulent une majorité de sièges. Erin O'Toole, cette campagne-là, il faut qu'il la gagne. Il faut qu'il aille chercher la victoire avec les dents, comme on dit. Alors que M. Trudeau, lui, de son côté, il n'a pas à gagner la campagne. Il a juste à ne pas la perdre.
Exact.
Donc, c'est vraiment deux défis différents pour les deux principaux chefs.
Ouais, puis pour O'Toole, écoute, si tu gagnes pas, ben, le lendemain de l'élection, c'était ta dernière journée comme chef ou à peu près, là?
Possiblement, effectivement. Là, à moins que ce soit extrêmement serré. La dernière fois, ça avait été très serré, puis même qu'Andrew Scheer avait gagné le vote populaire, mais avec une mauvaise campagne. Donc, un résultat semblable, mais avec une meilleure campagne du chef, peut-être qu'il pourrait rester, mais effectivement, ça poserait... Dans les deux cas, le perdant, la question de son leadership va se poser. Que ce soit M. Trudeau ou M. Otto, c'est sûr qu'au lendemain d'une défaite, la question du leadership va se poser.
Guillaume Rousseau, ça a été un plaisir. On te retrouve lundi prochain. On te souhaite un bon week-end.
Certainement,
merci.